Alors, ami, il semblerait que dans les pays de confession chrétienne, les églises et les lieux de culte aient quelque peu perdu leurs attraits. Pourtant, il nous semble que ce que l'on peut appeler la prière fait toujours partie de la plupart des Occidentaux, peut-être plus intimement, et si ce n'est pas ponctuellement, en tout cas en fonction des circonstances de la vie. Par contre, dans les pays de confession islamiste, elle fait partie du quotidien des fidèles puisque 5 fois par jour, un appel les invite à prier. Et pour les populations bouddhistes et hindouistes, il ne s'agira pas de prier, mais plutôt de méditer. Et nous verrons que ce que nous appelons la véritable prière, définie par Platon comme étant l'aspiration ardente de l'âme vers le divin, et la méditation bien comprise sont similaires. Cependant, nous n'allons pas nous intéresser à la prière et à la méditation sous l'angle des différentes religions, mais plutôt d'une façon générale en considérant leurs pratiques. Pour cela, nous devons d'abord comprendre qui est l'homme et sa relation au divin. Et la théosophie explique que l'homme est constitué d'une triade supérieure et d'un quaternaire inférieur. Sa triade, composée d'atma, que nous pouvons définir comme étant l'esprit suprême, buddhi, sa lumière focalisée dans manas, le penseur, et ce que nous appelons l'homme réel et immortel. Et cet ensemble représente un rayon de conscience individualisée dont les instruments ou véhicules qui permettent son expression s'enrichissent tout au long d'un grand cycle de vie manifestée, ponctué par une multitude de réincarnations ou réincorporations. Et cette triade est notre sens d'identité propre qui perdure de vie en vie. Et son quaternaire, soumis à la mort-renaissance, est composé du principe des désirs, associé à une réflexion du manas, de la vitalité ou prana, du corps astral et du corps matériel. Il représente la personne dans sa vie physique qui fluctue au fil du temps et des expériences. Elle ne dure qu'une seule existence, mais l'arôme, le meilleur de cette personnalité, une fois sublimée, viendra enrichir l'homme réel. Et cette personnalité, imbriquée dans son véhicule physique, est communément ce à quoi nous nous identifions. Elle n'est pas notre véritable je, mais nous l'ignorons et nous nous laissons subjuguer par un jeu constant d'attraction et de répulsion, de j'aime ou de je n'aime pas, de bonheur éphémère succédant à des peines qui nous asservissent et emprisonnent le penseur intérieur qui est comme un oiseau dans une cage. Il ne peut remuer une plume et reste muet. Et ce petit homme, soumis aux circonstances de la vie, géré par la loi de karma, c'est-à-dire ce qu'il sème, il le récoltera, ignore qu'il est le créateur de tout ce qui peut lui arriver, de bon comme de mauvais. Mais il sent, il pressent qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose qui transcende son existence. Il ne sait pas exactement quoi, il pense que c'est Dieu et se tourne vers lui pour l'implorer, pour négocier ou pour l'approcher. Il ne sait pas expliquer la notion de Dieu, mais les religions, en tout cas certaines, puisqu'elles ne sont pas d'accord entre elles, disent qu'il a créé le monde, qu'il pourrait le détruire si bon lui semble, qu'il a créé une âme pour chaque être humain qui ne vivra qu'une seule vie, même si celle-ci est interrompue prématurément par la mort. On lui dit que nous devons le prier pour être sauvés. Pauvres pécheurs que nous sommes, affublés du péché originel. Mais qu'il nous réserve après la mort un paradis éternel, si nous avons été bons, ou un enfer tout aussi éternel si nous avons été méchants. Néanmoins, avec la possibilité d'un purgatoire pour les repentis. Alors non, bien sûr que non, c'est une vision erronée et simpliste. Avec la connaissance que les grands sages, les éveillés nous ont transmis et qui est regroupée sous le nom de théosophie, ce n'est pas un Dieu comme ça qui transcende l'homme, pas ce Dieu anthropomorphe et arbitraire, mais c'est le rayon atmique qui se perd dans l'absolu, la pointe de sa triade supérieure qui non seulement le transcende, mais qui est lui-même dans sa nature essentielle. Et le péché n'est pas inhérent à sa nature originelle, car celle-ci est divine et contient toutes les potentialités pour faire de lui un véritable homme divin sur la terre, à condition qu'il le veuille bien et qu'il se tourne vers elle. Et dans la Bhagavad Gita, ce petit traité de philosophie du yoga issu de l'hindouisme, mais éminemment universel, au chapitre 7, Krishna, l'instructeur spirituel qui montre la voie à son disciple, parle de quatre classes d'hommes qui se tournent vers le divin. La première sont les affligés, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à des circonstances karmiques difficiles, qui ont du mal à s'en sortir, et qui voient que d'autres ont une vie qui semble plus facile, des conditions plus aisées que les leurs. Ils se tournent vers le divin comme un père protecteur pour demander une assistance, une aide, un secours. La seconde, ceux qui cherchent les possessions, c'est-à-dire ceux qui courent après la prospérité, la richesse, se tournent vers un Dieu puissant pour qu'il balaye leurs empêchements et leur facilite l'accès à la fortune. Et leur prière peut prendre l'allure d'un troc. Je t'offre ou je renonce à ça, mais je t'en supplie, fais en sorte que j'obtienne ce à quoi j'aspire. En fait, ces deux premières catégories ne sont pas celles que nous appelons la véritable prière. Elles sont de nature émotionnelle, psychique, et elles rabaissent le divin au niveau d'une personne. Ces deux classes d'êtres pensent que Dieu est attentif à la satisfaction des désirs humains, qu'il décide de la destinée des hommes, qu'il peut même outrepasser ses lois, les lois de la nature, pour favoriser un tel et punir tel autre. Alors, nous laisserons de côté ce genre de prière. La troisième classe sont ceux qui cherchent la connaissance spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un degré de maturité où ils pressentent que cette connaissance est en eux, qu'elle représente leur héritage dont ils auront accès lorsqu'ils se seront hissés au niveau de leur nature spirituelle. Ils sont capables de renoncer au monde pour l'obtenir, sacrifier leur nature inférieure pour faire naître l'homme nouveau. Intuitivement, ils comprennent qu'ils ont un travail à accomplir, une guerre à mener. Le royaume des cieux se conquiert par la violence, a dit Jésus. Et l'évangile de Luc dit « Il est au-dedans de vous ». À ce niveau de recherche ardente, la prière perd sa coloration psychique et elle représente un mouvement d'élévation du petit soi, c'est-à-dire l'aspect conscient et réfléchi de la personnalité, vers le grand soi, vers ce qui la transcende, l'individualité enracinée dans le divin. Et c'est un appel au soi universel pour communier avec lui, pas pour obtenir quelque chose, mais dans le but d'accorder, de purifier les enveloppes du soi pour rayonner la lumière de notre septième principe. est dans la clé de la théosophie. Il est dit à propos du véritable sens de la prière. C'est un mystère, plutôt, un procédé occulte par lequel les pensées et les désirs finis et conditionnés, qui ne peuvent être assimilés par l'esprit absolu inconditionné, sont convertis en volition spirituelle et en la volonté. Un tel procédé s'appelle une transmutation spirituelle. L'intensité de nos aspirations ardentes convertit la prière en la pierre philosophale, cette pierre qui transmute le plomb en or pur. La seule essence homogène, notre prière-volonté, devient la force active ou créatrice qui produit des effets selon notre désir. Si nous comprenons bien, cette prière libère la volonté de tout désir personnel, dont la puissance, désormais pleinement active, devient le pouvoir créateur qui agit en conformité avec le sens de perfection de Laurent, lui-même se trouvant à l'unisson avec la volonté générale de la nature. Et c'est un processus alchimique qui, avec la participation active de l'aspirant, fera de lui un véritable sage, un sage qui pourra ainsi se mettre au service de l'ensemble et avec les capacités pour le faire. Et la quatrième classe englobe précisément les sages qui cherchent à être en harmonie constante avec le divin et qui deviennent ainsi un canal fidèle de la lumière du Logos, de la conscience une, ou si l'on veut, Dieu manifesté à travers la nature la plus raffinée. Et cette prière ne se distingue plus de la méditation. Elle conduit à la béatitude extatique, produite par la communion étroite de l'âme supérieure avec l'essence universelle. Mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant, passons à la méditation. Elle s'est propagée en Occident grâce aux écrits de nombreux orientalistes et particulièrement grâce à l'exil forcé des lamas tibétains. Et cette pratique a rapidement intéressé les Occidentaux essentiellement pour ses retombées telles qu'un mieux-être, une santé physique meilleure, une sérénité intérieure durable, quelles que soient les tempêtes extérieures, et avec la capacité d'un discernement non troublé par les émotions. Ou même avec pour objectif le développement personnel, ce qui revient à un non-sens, puisque tout ce qui est de nature personnelle doit disparaître si l'on veut atteindre à la véritable méditation. Et dans la majeure partie des cas, l'aspect éthique et la discipline qui en découle ont été laissés de côté pour se cantonner à une pratique physique se répercutant sur l'aspect émotionnel et psychologique des pratiquants. Mais la véritable méditation, telle qu'elle est pratiquée par ceux qui entrent dans la voie du yoga royal, intègre tout à la fois la connaissance des grands sages éveillés avec son étude et son approfondissement, la dévotion à la nature suprême inhérente à tout ce qui vit, et l'engagement dans l'action pour participer aux grands mouvements et programmes de la vie manifestée. Elle n'est pas seulement un exercice ponctuel que l'on installerait à un moment particulier de la journée, mais c'est un objectif qui concerne et qui imprègne toute la vie de celui qui s'y engage. Elle débouche sur une ligne de conduite intérieure et extérieure qui donne une direction à toute la vie, chaque jour et à chaque instant, avec parallèlement un recueillement intérieur et une pratique ponctuelle d'élévation. Et cette méditation vise à rendre effectif, fonctionnel, le lien qui unit l'homme au divin. D'où l'importance d'une connaissance exacte, authentique et sûre sur la notion de Dieu à son niveau transcendant et dans son immanence. Et une telle connaissance a été transmise précisément par ceux qui ont réalisé cette union suprême, ceux qui savent, dont le regard intérieur a pénétré le cœur même de la matière et observé l'âme des choses, là où nous ne voyons que les apparences, les enveloppes et les formes les plus denses. Et elle a été confirmée et corroborée par des générations de voyants spirituels, nous est-il dit. Ainsi, avec la théosophie, nous comprenons que Dieu n'est pas un être. C'est un principe au cœur de notre nature. Il est l'essence de notre être. Chaque homme le porte en lui-même, mais le reflète avec plus ou moins d'excellence. Mais c'est là la promesse de la perfection qui constamment exerce sa pression dans la conscience de tout être. Et notre origine est cette essence divine et nous nous fondrons en elle à la fin d'un grand cycle de vie. Mais durant la manifestation, nous sommes un rayon de la conscience une qui globalement représente la synthèse de toutes les réalisations du potentiel divin et dont l'expression est ce qui est appelé le logos, le soleil spirituel central, le soi divin, représenté ou symbolisé dans l'homme par Ishvara, Krishna, le Christos ou Bouddha. Et l'homme, indissolublement lié à toute la nature, progresse vers la réalisation consciente de l'esprit, l'union et l'identification de la conscience individuelle avec ce soi divin qui englobe tout. Cette réalisation est l'objectif de la vie une. Et c'est ici que se trouvent les convergences dans la démarche et la pratique du mystique qui communie avec son Dieu et celle du yogi dont la conscience individuelle se dilate à la dimension de la conscience cosmique. Maître Eckhart de la mystique Rhénane, dans son livre « L'amour est fort comme la mort » dit « Dans cet état, l'âme s'est perdue elle-même et coule en plein courant dans l'unité de la nature divine. Maintenant, je ne veux pas parler davantage de l'âme, car là, dans l'unité de l'essence divine, elle a perdu son nom. C'est pourquoi là, elle ne s'appelle plus âme, son nom est l'essence incommensurable. » Tandis que Patanjali, dans le traité 1 de ses Yoga Sutras, dit « L'état de méditation abstraite peut être atteint par une profonde dévotion envers l'Esprit suprême, considéré dans sa manifestation compréhensible comme Ishvara. Ishvara est un esprit que n'affectent pas les causes d'affliction, les œuvres, les fruits des œuvres, ni les désirs. En Ishvara devient infinie l'omniscience qui, dans l'homme, n'existe qu'en germe. » Et au chapitre 4 de la Bhagavad Gita, Krishna dit « Quelle que soit la voie empruntée par les hommes pour m'approcher, c'est dans cette voie même que je les aide. » Alors, que l'aspirant considère le septième principe comme une entité à part, ou qu'il pressente qu'il est lui-même dans sa nature suprême, en se tournant vers sa polarité spirituelle au diapason de son cœur, il commence à recevoir quelques lumières qui le guident tout au long de son ascension. Ainsi, l'union avec la nature suprême est possible pour tout homme qui s'est levé pour se libérer et qui a résolu, coûte que coûte, d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Réaliser cette union, c'est obtenir la véritable connaissance, goûter la pure béatitude. Mais c'est aussi atteindre à la permanence de conscience sur laquelle l'existence changeante de la vie incarnée n'a plus de prise, ni même la mort. Et on comprend bien que pour arriver à ce degré de réalisation, l'homme a dû faire un peu de ménage dans sa vie quotidienne. Pour qu'une montgolfière s'élève, il faut la délester de tous les sacs de sable qui la retiennent rivée au sol. Avant d'entrer à la Mecque, le pratiquant enlève ses chaussures. Avant de prier dans une église, l'orant s'agenouille. Symboliquement, il se plie, il courbe sa personnalité à la volonté de Dieu. Avant d'entrer dans le sein du saint, le candidat doit s'être complètement purifié. De ce fait, avant d'aborder la pratique de la méditation décrite au chapitre 6 de la Bhagavad Gita, le disciple devra s'astreindre à toute une discipline et la confirmer dans la durée pour arriver à un stade où il devient capable de méditation. Et Krishna amène d'abord son disciple à prendre du recul et à y voir clair, parce qu'il devra s'engager volontairement dans un changement complet de paradigme. Il aura une véritable guerre à mener contre toutes les colorations de son quaternaire inférieur pour les harmoniser à sa triade spirituelle et divine. Krishna lui transmet d'abord cette connaissance universelle qui pointe l'accent sur l'illusion du monde de la séparativité et la nécessité du renoncement pour s'en libérer. Il lui montre ainsi que tout ce qui l'empêche de s'engager dans ce combat appartient au monde transitoire et n'a pas de réalité absolue. Et quand son ignorance est dissipée, le disciple se rend compte qu'il est pris dans la cage d'écureuil de ses désirs multiformes et qu'il faut tendre à purifier ce principe, transmuer la multitude de ses appétences en un désir unique, celui de s'accorder à la nature divine. Et un mystique comme Jean de la Croix reconnaît que l'âme qui s'attache à ses appétits n'est pas plus libre pour contempler Dieu que la mouche qui se pose sur du miel pour voler. Il affirme aussi: celui qui ne sait pas éteindre ses appétits chemine vers Dieu tel un homme tirant péniblement un chariot jusqu'au sommet d'une côte. Et Origène l'expliquait à l'aide d'une parabole. Le Fils de Dieu, image de Dieu, est au fond de l'âme comme une source d'eau vive. Quand on y jette de la terre, c'est-à-dire des désirs terrestres, elle est recouverte et cachée au point qu'on ne la connaît et ne l'aperçoit plus. Mais, en elle-même, elle reste vive. Dès qu'on enlève la terre qui la recouvre à la surface, elle réapparaît et on la revoit. Alors, ami, le mystique, comme le yogi, par cette prise de conscience et sa réalisation, libère le penseur de tous ses attachements illusoires qui asservissent et limitent ses pouvoirs de discernement et de volonté. Il peut alors se fixer sur l'Esprit suprême. Mais pour l'aspirant yogi, dans l'esprit de la Bhagavad Gita, devenir un véritable renonçant n'est pas fuir ses responsabilités pour s'isoler du monde. C'est un engagement dans toutes les obligations de sa vie, mais en renonçant à tout intérêt personnel. Ne rien attendre pour soi, ni reconnaissance, ni récompense, ni même un résultat particulier. Les résultats sont laissés à karma. Sinon, il s'enchaîne à ses actions. Et la discipline qu'il s'impose le rend ainsi apte à la méditation. Et au fil de sa pratique, elle renforcera sa capacité de concentration, à être constamment attentif, présent, le mental dompté au service du penseur, de l'homme réel. Et ainsi, à entrer plus profondément dans la connaissance. Et cette connaissance, avec la science qui en découle pour se libérer et communier avec le divin, est minutieusement explicitée dans les authentiques traités de yoga, comme ceux que nous avons cités. Elle n'est pourtant pas proposée aux fidèles des religions chrétiennes pour les éclairer et servir de guide sur le sentier difficile de l'aspirant à la lumière divine, bien que nombre de mystiques aient écrit plusieurs traités sur le chemin qui mène à Dieu. En fait, ils ont été mis sous le boisseau par l'autorité religieuse quand ils n'ont pas été détruits ou amputés de ce qui ne s'accordait pas aux dogmes de l'Église. Et parfois, ils ont été altérés. Et les quelques mystiques qui ont finalement trouvé la voie par une vie de sainteté et de prière, lorsqu'ils ont raconté leur cheminement, expliqué leur découverte et décrit l'approche qu'ils avaient de Dieu, ont été répudiés, voire excommuniés, certains emprisonnés comme Jean de la Croix, quand ils n'ont pas fini sur un bûcher durant l'Inquisition. Maintenant que nous avons atteint le point où l'aspirant devient capable de méditation, nous allons avancer un peu et voir les similarités avec la prière, en sachant que nous n'allons qu'effleurer le sujet. Revenons au chapitre 6 de la Bhagavad Gita, où Krishna dit « Celui qui a atteint à la méditation » devrait s'efforcer constamment de se reposer dans le suprême en restant dans la solitude et la retraite, en ne possédant rien et en étant libéré de l'espérance. Par la discipline, il s'agit de s'isoler de ce monde des fluctuations. Mais cet isolement ne correspond pas à une négation de la vie des sens ou à une froideur des intérêts des autres. Le yogi n'est séparé d'aucun être. Derrière chacun, il voit une âme qui lutte. Et derrière toute âme se trouve le divin. Il réalise l'unité de la vie et se réjouit du bonheur de toutes les créatures auxquelles il contribue autant qu'il le peut. Il isole l'être intérieur ou âme qui n'est plus affecté et détourné de son but par les objets, les sens, la souffrance et le plaisir. Et il peut ainsi participer consciemment à la grande vie de l'univers. Pour y parvenir, il se tient fermement en sa propre nature et peut alors aller plus loin. Nous savons aussi que la prière verbale peut constituer une aide puissante pour atteindre le suprême. L'orant prononce d'une façon audible ou intérieurement, une prière faite de mots qui a une résonance en lui. C'est un appel au divin où sa bénédiction et sa lumière sont invoquées, ce qui mobilise le mental et le cœur. Quant au yogi, il utilise parfois le pouvoir magique des sons, mantras, et d'autres moyens connus par lui pour sortir vers l'universel en pleine conscience. Et le méditant, qui se conforme à Patanjali, est invité à prononcer le mot Om, représentant Ishvara, où il est dit au premier traité, la répétition de ce nom devrait être faite avec réflexion sur sa signification. De cette répétition et de la réflexion sur sa signification résulte une connaissance de l'esprit et la disparition des obstacles qui s'opposent au but recherché. Cependant, il s'agit de s'efforcer constamment de se reposer dans le suprême. Il y a l'idée d'effort. Ce n'est pas parce que l'aspirant s'est libéré des attractions et répulsions du monde physique que son mental va rester calme et pleinement disposé à refléter la lumière du supérieur. Dans un article de Judge, Méditation, Concentration, Volonté, il est expliqué qu'en vertu d'une particularité du mental humain, la partie de la mémoire qui est associée à la concentration est réveillée dès l'instant où l'on s'efforce de se concentrer. Dès que l'homme entreprend de se concentrer sur l'idéal le plus élevé qu'il puisse formuler, comme en un éclair, défile devant son mental des foules de souvenirs de toute espèce, d'anciennes pensées et impressions qui chassent le noble sujet et mettent ainsi fin à sa concentration. Ce qui veut dire qu'il va falloir être vigilant, attentif dans chacun de nos actes au quotidien, pensées, paroles et actions, pour que ce renoncement s'imprime au niveau intérieur de notre nature. Et cette vigilance et attention impliquent que le penseur est présent. C'est précisément l'aspect suprême en l'homme qui n'est pas affecté par ce qu'il perçoit. Et avec le vipassana, il est expliqué « Observez simplement les distractions attentivement et elles finiront par s'en aller. Plus vous leur appliquez de l'attention pure, plus elles s'affaiblissent. Luttez avec elles et elles gagnent en force. Observez-les avec détachement et elles s'évanouissent. Une attention claire entrave le développement des empêchements. Une attention constante les états. En fait, l'attention est vigilance impartiale et elle n'est pas prisonnière de ce qui est perçu. Parce que le penseur est là, présent. Il n'est plus comme un oiseau dans une cage et il peut alors chanter sa mélodie à l'oreille de son geôlier qui désormais peut l'entendre et doit la rechercher. Et la capacité à être apte à la méditation rend précisément possible cette attention. Et Patanjali, dans son livre 3, explique que la fixation du mental sur un point, objet ou sujet est l'attention. La continuation de cette attention est la contemplation. Cette contemplation, quand elle est pratiquée seulement sur un sujet ou un objet des sens de nature matérielle, est la méditation, samadhi. Mais nous devons comprendre que ce n'est qu'un premier degré de méditation. Il y a plusieurs niveaux de samadhi. Dans le même traité, il dit « L'attention, la contemplation et la méditation précèdent, sans toutefois produire immédiatement la sorte de méditation dans laquelle la connaissance distincte de l'objet est perdue et qui est appelée méditation sans semence. » Il faut comprendre que par sa persévérance, le yogi pénètre graduellement d'autres champs de conscience auxquels, par son entraînement et sa discipline, il pourra appliquer attention, contemplation et méditation. Et cette pratique le mènera à s'élever de plan en plan jusqu'au soi divin, ou, selon le mystique, jusqu'à Dieu. Et pour le mystique, l'attention est caractérisée par sa propension indéfectible vers Dieu. Ceux qui côtoyaient Jean de la Croix disaient de lui qu'il ne conversait que de Dieu, aussi bien en récréation que dans les autres lieux. Et la prière de Thérèse d'Avila était si continue que même le sommeil ne parvenait pas à en arrêter le cours. En fait, la prière du mystique finit par devenir contemplation et méditation. Alors, amis, la véritable méditation, tout comme la véritable prière, est un chemin constitué de plusieurs étapes qui prépare et mène à l'ultime transmutation de l'être pour amener l'aspirant à mourir définitivement au monde de la séparativité et gagner la communion définitive avec le soi de tous. Pour le yogi, comme pour le mystique, c'est une démarche sacrée et solennelle. Le passage qui ouvre à cette réalisation suprême peut être ressenti comme une mort. Thérèse d'Avila, embrasée d'un violent désir de voir Dieu, se sentait mourir. Jean de la Croix disait « Pour parvenir à être tout, ne cherche qu'à être quelque chose en rien. » Maître Eckhart disait aussi « Au sixième degré, l'homme, parvenu à la perfection complète, est dépouillé de lui-même et revêtu de l'éternité de Dieu. Il a oublié la vie temporelle avec tout ce qu'elle a de périssable. Il a été entraîné et transformé en une image divine. Il est devenu un enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre degré de degré supérieur. Là est le repos éternel, la béatitude. Car le but dernier de l'homme intérieur, de l'homme nouveau, est la vie éternelle. » Alors, amis, pour terminer sur une idée qui est peut-être plus à notre portée et qui nous mènera un jour à cette grande réalisation, nous allons citer deux phrases de cet article de Judge intitulé « Méditation, concentration, volonté ». Si nous accomplissons toutes nos actions, importantes ou non, à chaque instant de notre vie, par amour de l'humanité tout entière, comme représentant le soi suprême, alors chaque cellule et chaque fibre du corps et de l'homme intérieur sera orientée vers une direction unique et aboutira à une concentration parfaite. Méditons sur ce qui constitue en nous le soi supérieur. Concentrons-nous sur lui et exerçons toute notre volonté à travailler pour celui qui réside au cœur de tous les humains. Voilà, amis.